À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques qui les représentent dévoilent leur parcours personnel, leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, un rendez-vous bimensuel proposé et présenté par Nadia Bey sur Radio Orion.
Mesdames, messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans votre émission À visage découvert. C'est l'émission qui vous dit tout et qui vous dévoile le vrai parcours de nos invités. Et c'est surtout sans filtre. Oui, sans filtre. Dans les studios de Radio Orion, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui deux grandes figures de la banlieue, deux exemples de réussite. Ils nous diront et ils vous diront que la banlieue est une chance pour la France. Alors, sans plus tarder, je vais les interroger sur leur itinéraire, mais aussi sur leur vision, sur leur programme, sur leur... idées et les grands projets qu'ils comptent engager pour les années à venir. Il s'agit de Aziz Senni et de Patrick Lozès, tous deux chefs d'entreprise qui incarnent une nouvelle génération de chefs d'entreprise tout en étant ce qu'on appelle des Français issus de l'immigration. Bonjour messieurs et bienvenue dans les studios de Radio Orient. Patrick Lozès, Aziz Senni, bienvenue. Vous connaissez cette maison, vous aussi Patrick.
Bonjour.
Bonjour. Alors très rapidement, il va falloir vous présenter bien sûr à nos auditeurs. Aziz Senni, vous avez 48 ans. Corrigez-moi si c'est faux. Vous êtes plus âgé que ça. Non, ça va ? 48 ans ?
49 exactement.
Eh ben 49, vous voyez, entre-temps, il a vieilli d'un an. Alors, vous êtes père d'un enfant, vous êtes installé aujourd'hui à Lyon, et vous êtes né au Maroc. Mais je vais dire comment votre famille arrive en France alors que vous aviez à peine 40 jours, et on peut dire que vous êtes né en France, parce qu'à 40 jours, vous étiez un bébé nourrissant. Quoi.
Non, il ne faut pas dire ça. Je suis bien né au Maroc, et ces 40 jours ont eu beaucoup d'impact
dans
sur ma vie.
Dans quelle petite ville, dites-nous, une grande ville ?
Khouribga, et qui se trouve à 120 km au sud de Casablanca. Elle est surtout connue parce que c'est la capitale mondiale des phosphates.
Ah, beaucoup le phosphate est là-bas, absolument. Et donc, vous avez grandi à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où vous avez fait toute votre scolarité. Votre nom nous renvoie souvent à votre best-seller, L'ascenseur social est en panne, J'ai pris l'escalier, paru en 2005, en pleine révolte des banlieues, chez, bien sûr, Michel Lafon, aux éditions Michel Lafon. Trois ouvrages déjà à votre actif. Et le tout dernier, qui surprend tout le monde, Made in ou Made in, si on veut être anglophone. Banlieue, nous allons y revenir, parce que là, c'est une marque déposée visiblement, et vous allez nous dire c'est quoi ce Made in banlieue. Voilà, sur le plateau à ma droite, Patrick Lozès, né au Bénin, vous avez 60 ans, vous êtes diplômé d'un troisième cycle de SCP, vous avez travaillé dans de grands groupes de l'industrie pharmaceutique, et vous êtes aujourd'hui pharmacien. Oui, vous avez une pharmacie, une officine de pharmacie à Drancy, où vous employez plus de 15 salariés, c'est bien ça ?
C'est cela.
Et vous êtes même actionnaire dans plusieurs, dans quatre autres officines. En 2005, vous fondez le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Et vous avez déjà plusieurs ouvrages à votre actif, dont Les Noirs sont-ils des Français à part entière. Et puis bien sûr, le tout dernier, c'est sur les 20 ans du CRAN. On va y revenir. Alors, j'aimerais vous dire, justement, pour un petit peu lancer ce débat, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la banlieue 20 ans après les révoltes de 2005 à Aziz Senni. Vous avez réussi à contourner le déterminisme social en prenant l'escalier parce que l'ascenseur était en panne. Est-ce qu'il est toujours en panne aujourd'hui, Aziz Senni?
Non seulement il est... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent. L'ascenseur social, non seulement il est encore en panne, mais il y a de plus en plus de monde dans l'escalier. La mobilité sociale, l'ascension sociale est de plus en plus difficile dans un contexte où quand on grandit dans un quartier aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à notre époque, à nous, j'ai envie de dire. La banlieue des années 2025 n'est pas celle des années 90. Beaucoup de choses se sont plus compliquées. L'explosion des familles monoparentales, la progression du chômage, la pauvreté qui aujourd'hui atteint des scores... extraordinaire, j'ai envie de dire, 42% de pauvreté, 18% dans les 1609 quartiers, 18% de chômage. Donc on a une situation sociale et économique extrêmement compliquée. Et pourtant, rien de nouveau, on a remis le couvercle sur nos banlieues après les révoltes de 2005, après les révoltes de 2023, et rien ne se passe. Rien ne se passe, on continue à regarder ces quartiers à travers le prisme de la sécurité, de l'urbanisme, de l'action sociale. et jamais à travers le prisme de leur potentiel économique, et on va en parler après.
Et alors justement, et pourtant vous dites que la banlieue c'est un trésor de plus de 150 millions à exploiter, on va y revenir, mais en attendant le regard de Patrick Lozès qui a aussi dans son dernier ouvrage paru aux éditions de l'Aube, Quel noir et histoire de France. Alors quel est le regard que vous portez aujourd'hui 20 ans après, mais aussi 20 ans après la création du CRAN ?
20 ans après la crise des banlieues, 20 ans après la création du CRAN, puisque le CRAN a été créé dans le sillage de ces événements, de ces révoltes, pour dire que la France a en son sein des populations qui sont françaises et qui ont envie qu'on les regarde et qu'elles soient considérées comme des citoyens à part entière, parce qu'elles ont des choses à apporter sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, et nous sommes là pour en parler. Et ce que nous disions il y a 20 ans est encore valable aujourd'hui. Nous disons compter sur l'ensemble des Français pour faire en sorte que ce pays soit grand. Et je pense que 20 ans après, quand on regarde le monde, quand on voyage, quand on va en Asie, quand on va en Amérique centrale, en Amérique du Sud, quand on va en Afrique, on voit que tous les pays évoluent, les continents évoluent, et nous, en France, non seulement nous n'évoluons pas parce que nous n'utilisons pas toutes nos capacités, mais j'ai même l'impression que nous régressions. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui comme tension, tension dans la société française, tension de groupes qui se cherchent et qui ne veulent pas travailler ensemble, on se dit que la situation est quand même un petit peu compliquée, mais il y a de l'espoir. Et nous sommes là pour dire
qu'il
y a
de l'espoir. Et bien voilà, voilà qui est dit. Tous deux, vous êtes dans une approche, vous n'êtes pas dans une approche victimaire, justement. Vous refutez cette approche de victimaire des citoyens qui ne sont pas des citoyens à part entière. Justement, vous arrivez en disant que la banlieue, c'est aussi un trésor. Aziz Seni, c'est quoi ce trésor qui était caché depuis longtemps ?
Dans mon livre « Made in banlieue » qui est publié aux éditions Michel Lafon et qui sort le 6 novembre, je présente un trésor effectivement de 150 milliards d'euros de potentiel de développement à 15 ans dans ces quartiers. Je vais rentrer dans l'explication.
C'est important de nous dire d'où vous tenez ce chiffre-là.
C'est une estimation qui a été faite et c'est la fourchette basse.
Ouais.
C'est la fourchette basse, parce que le vrai chiffre, il est dans le livre, je ne l'ai pas mis en couverture parce que personne ne le croirait.
Ouais, ouais.
Alors, je vais vous faire la démonstration ici et vous expliquer d'où vient ce chiffre. Si je vous dis à vous et à tous nos auditeurs que la croissance mondiale, la croissance économique mondiale, elle est tirée par les pays émergents, le Brésil, les BRICS, d'une manière générale,
ouais,
tout le monde dirait, bon, bah ok, tout le monde le sait.
Ouais.
Pourquoi avons-nous du mal à concevoir qu'au niveau de notre pays,
ouais,
la démographie, elle est dans ces territoires. La réserve foncière stratégique,
elle est aussi
ces territoires.
Ouais.
La main-d'œuvre disponible, elle est dans ces territoires. Le premier vivier de jeunesse, il est dans ces territoires. La première réserve de main-d'œuvre disponible, elle est dans ces territoires. Et quand on dit la croissance de la France peut être tirée par ces territoires, ah, vous êtes sûr ? Parce que toutes ces années, on a regardé nos banlieues à travers le prisme de la politique sécuritaire, à travers l'action sociale et à travers l'urbanisme.
Mais
et
pourquoi est-ce que justement
l'approche
économique a
s'il vous plaît.
Oui.
Je le dis très clairement, on ne sortira pas et on ne fera pas émerger nos quartiers en mettant un CRS derrière chaque habitant, une assistante sociale derrière chaque habitant ou en mettant des coups de peinture. C'est très clair.
Alors visiblement, Aziz Seni veut réussir là où une trentaine de politiques de la ville, c'est-à-dire des ministres qui se sont succédés depuis Borloo et même avant Borloo, il veut réussir là où ses ministres ont échoué. Est-ce que c'est possible ?
Ah, je pense que c'est tout à fait possible, mais je pense que les ministres dont vous parlez, la trentaine de ministres qui ont eu pour charge de s'occuper de la ville, mais pas seulement de la ville, des gens qui sont dans cette ville, ne se sont pas préoccupés de changer leur vision, ne se sont pas préoccupés de changer les lunettes avec lesquelles ils regardaient ces populations, ces territoires. Il suffit d'y aller, il suffit de voir qui crée des entreprises aujourd'hui. Tout le monde le sait. quand on regarde ceux qui créent des entreprises, ceux qui sont dynamiques, ceux qui rapportent de l'argent, puisqu'il faut dire les choses très concrètement, à ces territoires, ce sont des personnes qui sont françaises, mais qui ont eu des difficultés à rentrer dans les entreprises et qui ont créé leur propre entreprise. Bref, il y a un potentiel de création d'entreprises, d'auto-entrepreneuriat qui est extraordinaire, parce que les difficultés, quand vous avez des difficultés et que vous ne voulez pas sombrer, eh bien vous faites preuve d'imagination, d'inventivité, et ces populations font preuve d'inventivité, et il faut le dire.
Alors, créativité, inventivité, c'est un potentiel souterrain qui a été totalement ignoré, alors que l'économie est déterminante en dernière instance, comme le disait Karl Marx. Pourquoi est-ce que ces 30 ministres ont fermé les yeux sur ce potentiel?
Mais pas, d'abord, je vais vous dire, moi, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas la politique de la ville, c'est une politique économique. Déjà, changeons
nos lunettes.
Mais dans
la politique de la ville, il y a le prisme économique aussi, qui a visiblement, vous l'avez dit, échappé à ces...
Très clairement, non. La politique de la ville ces dernières années, ça a été l'urbanisme. Le ministère de l'économie n'a jamais regardé ces territoires. Quand nous entrepreneurs,
pourtant,
nous
il y a une réunion interministérielle dans le cadre de la politique de la ville.
Quand allions voir nos interlocuteurs dans les ministères, en tant qu'entrepreneurs qui payons la TVA, qui cotisons aux URSSAF, on nous disait, vous êtes à Mantes-la-Jolie, allez à la politique de la ville. Pourquoi? Parce que nous sommes les handicapés sociaux de cette économie. Ouais. Parce qu'on nous a jamais perçus comme réellement des agents productifs. Aujourd'hui, il est temps de changer ce regard.
Mais on est dans une approche transversale quand on parle de la banlieue Aziz-Sénia. On ne peut pas dire que c'est que l'ANRU ou c'est la politique de la ville.
Est-ce que vous auriez un agriculteur ici à ma place sur cette chaise, vous diriez que la politique agricole, c'est une politique transversale? Non, c'est toujours au même à qui on explique que c'est transversal, que c'est compliqué, etc. Non, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner une autre argumentation. Comment voulez-vous régler le problème du chômage aujourd'hui, 18%, quasiment trois fois la moyenne nationale, sans investissement? Moins de 2% des investissements privés français, moins de 2% vont dans ces territoires. Quand la France dit « nous sommes champions d'Europe des investissements étrangers avec Choose France », moins de 2% vont dans ces territoires. Tout le reste est éparpillé. Ouais. Comment voulez-vous tirer vers le haut ces territoires s'il n'y a pas d'investissement privé? Je vais aller plus loin. On n'est pas les seuls à avoir cette problématique de quartier.
Ouais.
Allez voir outre-Atlantique, chez Monsieur Trump. Ils ont créé un dispositif qui s'appelle les Opportunity Zones. Ils ont réussi en 20 ans à transformer des quartiers comme le Bronx, comme Compton, des quartiers de Détroit, en hub économique, en locomotive économique. On nous explique que le Bronx, pour ceux qui sont plus âgés et qui connaissaient le Bronx des années 90, on partait de très loin. On n'est pas capable de transformer le Val-Fouré, Vaux-en-Velin, le Mas du Taureau, les quartiers nord de Marseille en hub économique, nous? On est pourtant plus intelligents, et je l'affirme, que les Américains.
Mais vous semblez dire que cette ghettoisation, elle est voulue, c'est une volonté politique, Patrick Lozès. C'est pas dit, mais en filigrane, on peut l'entendre ainsi. Patrick.
Je pense que c'est une méconnaissance, et je pense que c'est un manque de volonté. On peut regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui que les États-Unis regardent les minorités, quelles que soient ces minorités, parce que la minorité, c'est une notion politique.
Quand vous n'avez pas... Vous êtes vice-président du comité Martin Luther King ici en France. C'est important de le dire pour nos auditeurs.
Et que je connais un peu les États-Unis, ce que je veux dire par là, c'est que les groupes qui n'ont pas accès à l'emploi, ces groupes-là, quand vous les regardez, vous avez un gisement, un potentiel économique formidable. Et les États-Unis, dès les années 60, ont commencé à regarder qui étaient les personnes qui n'avaient pas accès à l'emploi, que ce soit des femmes. Les femmes sont une majorité en termes numériques, mais politiquement, elles étaient une minorité. Les Noirs, etc., etc. Et quand on a investi sur ces populations, quand on leur a laissé la bride sur le coup...
Non, mais on dit qu'il y a eu de l'argent, il y a eu de l'ANRU et la rénovation urbaine.
C'est extraordinaire ce qui a été...
Les politiques vous disent qu'il y a eu beaucoup d'argent.
Oui, mais
qui a servi à quoi?
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été rapporté comme création d'entreprise, comme apport économique, mais c'est démultiplié par rapport aux investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on utilise les investissements de manière très, comment dire, on ne le fait pas de la meilleure manière pour le dire clairement. On pourrait faire mieux si on veut faire confiance et si on veut qu'il y ait un potentiel économique qui se développe. C'est de ça
que nous sommes en train de parler. Alors, moi, je suis tentée de vous dire que tous deux, vous êtes des politiques, même si vous êtes dans une approche économique. Je vous rappelle que vous êtes les deux centristes, proches de Jean-Louis Borloo, mais également de Bayrou, vous deux, hein, de toutes les façons. Mais j'ai l'impression d'entendre des ministres qui viennent avec un programme
et
qui disent, moi, j'ai une autre
chose.
Vision, j'ai d'autres propositions. C'est justement, c'est ça, le made in banlieue.
Je voudrais juste corriger quelque chose. Mon dernier engagement date d'il y a plus de 14 ans. Me renvoyer à quelque chose d'il y a 14 ans, je ne trouve pas ça très sympa et pas très véridique. Ça fait 14 ans que j'ai arrêté tout engagement politique.
Vous étiez aux côtés de Bayrou.
Oui, et puis quand j'avais 20 ans, j'étais à côté d'autres. Donc, si vous voulez remonter très, très loin...
Et vous étiez même ministre. Là, votre nom est revenu souvent.
Je n'ai pas d'engagement politique. Ce que je propose, ce n'est pas de droite ou de gauche. Mon livre « Made in banlieue », quand on dit « on va développer économiquement les territoires », ce n'est pas partisan, c'est ni de droite, c'est ni
mais
de gauche.
Mais vous êtes dans une approche politico-économique. Politico-économique.
La politique en grec, c'est s'occuper de la vie de la cité. Et oui, j'assume de m'occuper de la vie des cités. Donc au sens grec, non partisan, on s'occupe de notre pays. L'État n'existe pas en soi. L'État, c'est tout le monde, c'est nous, c'est aussi les agents économiques. Tout à l'heure, vous parliez d'une chose, encore une fois, je suis désolé, il faut que je corrige ces éléments de langage. Tous les journalistes nous expliquent que la banlieue coûte. Vous nous dites jamais combien ça rapporte. Ouais. Jamais. Combien ça rapporte, Madame Bell, la banlieue ? La banlieue, c'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires des 250 000 entreprises qui sont installées. C'est 42 milliards de consommation. J'en ai assez d'entendre que la banlieue coûte. C'est pas vrai. La banlieue, elle est très rentable. Chiffre à l'appui.
Chiffre à l'appui, si vous voulez en savoir plus sur Made in banlieue avec Aziz Seni, mais aussi une réflexion républicaine sur le repli communautaire que vous refutez, cher Patrick Lozès. Ben, restez avec nous, ça sera juste après cette pause.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques qui vous représentent dévoilent leur parcours personnel, leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, un rendez-vous bimensuel proposé et présenté par Nadia Bey sur Radio Orient.